Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec vous pour commenter l'actualité. Comme tous les vendredis, c'est le club de la presse média, les livres avec Gérard Collard et les débats d'actualité à 11h. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Une semaine de passé déjà, vendredi 8 janvier. Le club de la presse média, comme tous les vendredis, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Madame Valérie.
Bonjour et François Aubel, rédacteur en chef au Figaro. Bonjour. Bonjour, vous êtes en charge des pages télé, culture. Éric Flou, journaliste média, télé CapSat. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour commenter l'actualité média, l'actualité télé.
Oui, on va choses,
oui, il y a beaucoup de choses, effectivement. La nouvelle, les nouveaux programmes de France Télévisions, on l'avait évoqué.
Le nouveau 13h avec Julie
le match. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et puis, évidemment, les livres avec Gérard Collard vers 11h moins le quart. Alors, on commence avec la question du jour.
Eh bien, la question du jour. Vous savez que hier, Mark Zuckerberg, le grand patron presque des réseaux sociaux, hein, puisqu'il rassemble WhatsApp, ouais. Instagram, Facebook, ouais. Les trois, c'est lui.
Le grand patron,
GAFAM.
Le presque était de trop.
Vous savez, je suis mesuré, moi. Et donc, Mark Zuckerberg a-t-il eu raison? Il a bloqué les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump jusqu'à, apparemment, la fin de l'intronisation de Joe Biden. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison d'avoir coupé ses comptes? On vous pose la question sur le compte Twitter. Alors, on vient juste de la mettre en ligne, la question. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment représentatif. C'est oui à 5%, non à 95%, mais il n'y a que 20 votes. Ouais, on vient de le mettre.
On l'a mise un petit peu en retard.
Enfin,
ça dit quelque chose, et on pourra en parler de la puissance aussi de Mark Zuckerberg.
C'est le fait du roi.
Oui, absolument. On va y revenir dans un instant. On va passer au zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, hier, notre Premier ministre Jean Castex a annoncé l'ouverture de la vaccination en plus de 75 ans. C'est pas encore pour vous, hein. Alors, c'est pas toujours simple de vacciner les plus de 75 ans ou les plus de 80 ans, comme le constatait hier un journaliste de C'est à vous dans un EHPAD.
Vous allez bien, vous avez le badge, vous êtes fait vacciner.
C'est très important même. On m'a piqué, puis voilà. Je ne savais pas s'il n'y avait pas des réactions, des trucs comme ça.
Et qui a levé le doute?
Le doute, j'ai pas confiance envers Macron.
Pourquoi?
Parce que je l'aime pas. Parce que moi, je suis communiste.
Et vous vous êtes quand même fait vacciner?
Parce que je respecte Madame Bénichou, c'est elle qui m'a proposé de faire le vaccin.
S'il n'y avait pas eu le docteur Bénichou, pas de vaccin pour Monsieur Larry?
J'aurais dit non. Elle m'a bien conseillé.
Ben voilà, merci Madame Bénichou.
Il faut rappeler que ce n'est pas une opinion politique, le vaccin. Hein. Non. C'est contrairement à ce qu'on peut voir ici ou là.
Donc voilà, vous êtes ma Madame Bénichou à moi sur le vaccin. Restons avec C'est à vous qui recevait Julia Mikomski, qui est avocate et qui sort un livre sur les femmes et la justice. Mais Julia est aussi la femme de Benjamin Griveaux. Vous avez celui qui a fait briller sa tour Eiffel sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle est revenue sur ce moment.
Je crois que ça arrive dans beaucoup de couples. Alors après, on me dit oui, mais quand même, c'est un déshonneur public, une humiliation publique. Mais je m'en fiche, en fait, c'est pas le sujet. Et je crois que comme dans tout, il faut suivre son cœur. Et si mon cœur a été que les choses se passent de façon banale et qu'on fasse en sorte que, voilà, en tout cas aujourd'hui, nous allons bien.
Du courage pour aller sur les plateaux quand on est la femme de Benjamin Griveaux. Alors, l'avocate, elle a bien fait de venir, car après l'avoir interrogée sur le sexe de son mari, ils m'ont diffusé le son de Pierre Blasi, qui est un avocat qui, en 2012, doutait de la capacité des femmes dans la justice. C'est un son que vous allez beaucoup apprécier, Valérie. Écoutez.
Il faut avoir les épaules larges. Et surtout au pénal, il faut avoir les épaules très larges. Est-ce qu'une femme a les capacités pour le faire? Je ne veux pas critiquer, mais vous n'avez pas d'avocates qui soient des avocates de renom, connus, si vous voulez, comme de grandes pénalistes. Ça n'existe pas. Avec tous les problèmes qu'il y a actuellement, je me pose la question, est-ce qu'une femme a les capacités pour supporter le poids de toutes ces affaires?
On lui enverra le CV de Gisèle Halimi, par exemple, en parlant d'avocate.
Il n'est pas pénaliste, mais il n'a pas tort sur le fond. Il n'a pas raison sur la capacité des femmes, mais les grands pénalistes ne sont que des hommes. Citez-moi une femme pénaliste. Citez-moi un homme. C'est pas votre truc. Pas et, elle a répondu quoi
Ben je vous le diffuserai.
Mais peut-être aussi que c'est eu un changement d'époque.
Oui, c'est un changement d'époque. Comme, 2012, comme partout, c'est ce qu'elle dit. Et heureusement que ça a évolué.
Comme sur les plateaux de télé où pendant très longtemps, on n'avait que des hommes en professeurs de médecine, etc. Donc non, François Bell, c'est...
Et effectivement, moi, ce qui m'a surpris, c'est la séquence d'avant. Ouais. C'est la séquence d'avant qu'elle aille faire ça. J'ai trouvé ça assez impudique.
Qu'est-ce que vous trouvez impudique ? La question d'Elisabeth Lemoine
Pas du tout, la question
d'Elisabeth Lemoine. Mais elle n'a plus le droit de rien faire parce que son mari a dérapé ?
Non, mais...
Son mari a dérapé, elle ne peut plus qu'écrire, elle ne peut plus vivre.
Je ne sais pas, moi je...
Ça vous choque qu'elle ait à la télé ?
Moi, je serais... Ouais. Là, pour le coup, je suis pour le silence.
Ouais.
Elle vient vendre son livre, très bien. Elle peut rester sur ce domaine-là et puis évacuer le reste.
Oui, mais elle sait qu'elle ne va pas échapper à la question.
Oui, elle n'échappe pas à la question, mais elle aurait pu la contourner. Alors, effectivement, on peut considérer ça, Gilles, vous avez raison, comme du courage. Moi, je ne trouve pas ça... Il y a une pointe de folie derrière ce courage. Il y a quelque chose qui me gêne.
Mais ce n'est pas de sa faute, elle.
Ah non, ce n'est pas de sa faute, mais l'impudeur que j'y vois, elle vient d'elle, là.
Plutôt son mari qui a été impudique, hein.
Bien sûr, bien entendu. Mais là, je trouve que cette façon de se raconter, moi, me gêne. Ouais, vraiment.
Même à l'aise.
Vous aussi, même à l'aise.
C'est compliqué, je trouve que c'est compliqué. Je ne suis pas sûre que j'y serais allée. Alors, effectivement, non, courage ou je ne sais pas.
En revanche, Elisabeth Lemoine fait totalement son travail. Et elle le fait très bien, pour le coup.
Gilles.
Restons dans le dérapage, justement, avec le docteur Robert Cohen, qui a été recadré par Pascal Praud.
Robert Cohen, c'est un pédiatre, président de la Société de pédiatrie française.
Et ils évoquaient l'affaire de pédophilie d'Olivier Duhamel.
Quand j'ai commencé à faire de la gériatrie, j'ai vu que je ne pouvais pas toucher les vieux.
Ah oui.
Physiquement.
Physiquement.
D'accord. Et donc, c'est peut-être mon côté pédophile que je
d'être sur une pente dangereuse.
Vous connaissez la différence entre un pédiatre et un pédophile ? Le pédophile aime vraiment les enfants. On ne les aime pas vraiment.
Robert Cohen, je vous assure, mais même nous, je suis terrorisé aujourd'hui par ce que vous dites. Même moi, en tant qu'animateur, je me dis comment les gens peuvent prendre la plaisanterie que vous venez de faire, qu'on aurait fait dans les années 70 ou 80, qui serait passé au second degré. Donc je le précise, ce que vous dites là est du second degré, même si je trouve que ce n'est pas forcément de meilleur goût aujourd'hui, remarque.
Vous l'aviez entendu ?
Moi ça me choque pas. Écoutez, c'est une blague, c'est dissonant. En plus, moi je vais vous dire, mon fils a été voir ce docteur, docteur Cohen à Saint-Maur-des-Fossés, et très très bien passé. C'est un excellent médecin.
C'est un très bon médecin.
C'est un excellent médecin.
Était très très sensé sur les plateaux télé.
Voilà,
mais
ça détend.
Vous êtes choqué ?
Non, c'est une blague de Carabin. Ouais. Bon, effectivement, peut-être que le tempo. Mais ce qui m'embête un peu plus, c'est Pascal Praud qui le souligne, qui le surligne, qui insiste.
Mais il est obligé
maintenant. C'est la maîtrise de l'antenne.
C'est la maîtrise de l'antenne. Mais bon, il peut arrêter en disant c'est une blague de Carabin, et puis je précise.
Oui, mais Pascal Praud explique aussi en disant je suis terrorisé. Il explique pourquoi il regarde comme ça, parce que
bien sûr, aujourd'hui,
dès qu'il y a ce type de blague, vous avez
signalement, c'est ça,
etc. Et les réseaux sociaux, donc c'est des précautions oratoires.
Ah, mais je suis totalement d'accord.
Mais c'est vrai qu'il en fait.
On est dans l'ère des nouveaux vertueux, les nouveaux vertueux, on peut plus. Il y a grand-chose, mais franchement, là, moi, je l'ai vraiment pris comme une blague de Carabin.
Bon, alors racontons nos pires blagues.
Non.
Faisons payer cher.
Voilà.
Et pour finir, encore un dérapage, je suis resté dans la thématique. Ouais. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous savez, il y a l'affaire Sébastien Thoen, cet humoriste qui a été viré par Canal+, à cause d'une parodie. Et mercredi, alors, je n'ai pas pu vous le diffuser parce qu'il y a eu des petits événements aux États-Unis qui m'ont empêché de le diffuser dans mon zapping. Mais mercredi, à cause, donc, il a été viré à cause de cette parodie. Mercredi, la chroniqueuse Géraldine Maillet, dans Touche pas à mon poste, a tenté une critique de ce qu'avait fait Canal+, sachant que la chaîne appartient au groupe Canal+.
Et ensuite, sur la parodie, non mais ça, je ne sais pas si je peux le dire. Je ne vais pas le dire. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que malgré tout, on fait aujourd'hui des parodies sur des chaînes, et parfois les gens sont sanctionnés et de manière très très dure. Et donc voilà, parfois aussi, nous on n'en parle pas. Voilà.
J'ai rien compris, mais c'est
pas grave.
Il a très très bien compris.
Bien sûr. Il est trop fort.
Est-ce qu'elle reviendra en deuxième semaine?
Est-ce qu'elle reviendra? C'est ça. Oui,
c'est alors ça, c'est du courage pour le coup, ce qu'elle a fait.
Oui, c'est du courage ou de l'inconscience, ou alors elle a envie vraiment de partir.
Enfin, elle l'a fait.
Elle marchait sur des œufs.
Elle marchait sur des œufs.
Je crois que le direct l'a aidé de lui qui ne voyait pas ce qui allait arriver et qui l'a poussé en disant mais vas-y, qu'est-ce que t'as à dire?
Je pense qu'il savait très bien, non? Et là aussi, c'est...
Oui, il est très intelligent, il est très malin. Mais Géraldine Maillet, c'est quand même un pilier de l'émission. Je ne vois pas du tout, si jamais elle était virée, ou, ça serait terrible pour l'image de marque de Cyril Hanouna.
Mais vous pensez que Cyril Hanouna était au courant qu'elle allait dire ça?
Non, je pense pas. Je pense qu'il a été surpris. Mais il y a un autre chroniqueur, Raymond, je ne sais pas si vous voyez.
Qui n'est plus là.
Qui n'est plus là, depuis qu'il a fait un tweet en disant « Je ne comprends pas l'éviction de... »
Il n'est pas réapparu.
Alors, est-ce que c'est une sanction?
Bon, il a dit que c'était pas une sanction.
Tout comme l'humoriste, parlons de ce sujet. Vous avez lancé le débat. Edgar Rive, effectivement, qui sur la chaîne Comédie. Pardon, un de ses sketchs qui parlait de Vincent Bolloré a été coupé. Alors lui dit que c'est parce qu'il n'était pas bon.
Non, c'est le producteur de l'émission.
C'est le producteur de l'émission.
Il dit que c'est pas parce que c'était pas bon, mais lui, il maintient que ça, il a été censuré.
Je croyais que lui avait dit que.
Non, lui a dit que...
Il a finalement dit que c'était qu'il avait été censuré.
Parce qu'il faisait une blague sur Bolloré.
Parce qu'il évoquait
les milliardaires en Afrique.
Les milliardaires africains, parce que Bolloré a beaucoup d'affaires. En Afrique.
Et que lui-même, l'humoriste...
Luc qui suit nous dit « Raymond est revenu hier soir, pur hasard
». voilà. Bon.
Donc voilà, merci de nous tenir informés parce qu'on n'a pas suivi forcément, effectivement...
Heureusement qu'on a des spécialistes médias.
Voilà, merci.
Alors il s'appelle François Aubel, du Figaro, et le Flouk Télé 4-7.
Merci.
Pourtant, j'ai regardé souvent.
Et nous, on fait une émission média. Hein. Donc, merci Luc, on va vous inviter dans l'émission média pour nous expliquer les mouvements de chroniqueurs dans TPMP. Alors, allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio et comme tous les vendredis, le club de la presse média avec François Aubel, rédacteur en chef spécialiste des médias au Figaro, et Éric Flou, journaliste média à Télécapsat. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, enfin surtout vos coups de cœur. François Aubel.
Moi, c'est La Promesse. Ouais. J'en attends.
C'est un coup de cœur à 7 millions.
Ouais.
7 millions, 100 000 téléspectateurs.
La preuve qu'on peut faire c'est TF1 n'a plus peur du noir. On sort du noir du bon polar français, on sort de la génération Julie Lescaut, enfin. Mais non, mais vraiment, avec Sophia et Saïdi,
Nadia
Farès,
Olivier Marchal, Laurent Deutsch,
et Olivier Marchal, qui est sobre.
Ouais,
non, mais faut le noter quand même, c'est la première fois que ça arrive. Mais c'est quand même pas un hasard.
Et un contre-emploi, parce qu'il est un peu flic loser et pas flic
gagnant. Enfin, il a toujours un peu ce côté
baroudeur.
Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi que c'était une très bonne série.
C'est très réussi. Ouais. Alors, certains critiquent le côté un peu lent, la mise en place de l'intrigue. Bon,
ça va s'accélérer.
Ça s'accélère. Là, on a vu hier soir, le deuxième épisode, il y en a 6. Et puis, un coup de chapeau à Anne Landois, qui a réussi parfaitement son transfert. Elle était sur Engrenage, qui reste pour moi la meilleure série policière française, et qui réussit son transfert à TF1, et qui s'est adaptée au code de TF1, mais je trouve les a bien transgressés, et a fait vraiment quelque chose de bien.
Vous l'avez vu aussi, Éric Flou?
Alors non, je ne l'ai pas encore vu, mais les 7 millions m'encouragent à le faire. Et surtout, il paraît que Sophia Issaïdi est formidable.
Ouais, elle est formidable. Franchement, on l'a reçue lundi et c'est vraiment une grande découverte. En tout cas, Et puis, c'est vrai que ça nous a pris. Ce que je lui ai dit à Sophia Issaïdi, nous, on a eu les épisodes en avance. On se les a enquillés d'un seul coup. Quoi. Donc, espérons que les gens seront au rendez-vous.
Oui, Valérie, pour nous, 7 millions, ils l'ont bien été. Hein. Et pour nos éditeurs, deux choses. Ils peuvent voir les épisodes en replay. Ouais. Et surtout, tous les épisodes sont disponibles sur la fameuse plateforme Salto.
D'accord. Qui est gratuite pendant un mois, c'est ça?
Qui est gratuite pendant un mois. Donc vous pouvez...
Et 6,99€ ensuite. Ou 6€.
Ouais, absolument. Donc vous pouvez aller voir tous les épisodes comme nous. Il n'y a pas de privilège.
Voilà. Gilles, alors je vais passer après à Éric Flou qui va nous lancer sur le débat. Oui, vous, votre coup de cœur, c'est pour...
Mon coup de cœur, c'est pour TF1, en fait. C'est pour le nouveau journal de Marie-Sophie Lacaro, où on s'aperçoit donc que les audiences sont assez incroyables. Elles sont très importante. La différence avec le nouveau journal de Julien Buget est aussi différent. Et là, je me dis qu'en fait, Jean-Pierre Pernaut, c'est pas lui qui faisait l'audience. C'est le journal, c'est TF1.
Puisque c'est le rendez-vous.
Puisque c'est les mêmes choses. Je ne sais pas pourquoi on a adressé autant de couronne à Jean-Pierre Pernaut. Mais vous connaissez mon ironie, madame expert.
Mais c'est vrai qu'elle a...
Blague à part, quand on constate les chiffres sont vraiment incroyables et on s'aperçoit que parfois, la puissance d'une chaîne est beaucoup plus forte que la puissance de
son
journaliste.
C'était déjà le cas quand Jean-Pierre Pernaut était en vacances et qu'il était remplacé
par Jacques Legros.
Même quand il a remplacé
Mourouzi.
Absolument.
On disait, oh, il va rester 2 semaines, vous allez voir, Mourouzi, c'était la star de l'époque.
Et puis moi, je crois que ça tient aussi à la nature de Marie-Sophie Lacaro. Ouais. Elle surjoue pas, quoi. Elle est simple, elle est comme elle est. Enfin, je veux dire, elle est pas dans un rôle, contrairement à Bugier qui, lui, malheureusement...
Vous appréciez pas le Trésor de France 2?
Non, mais je trouve qu'il
c'est trop fabriqué.
C'est factice. Il essaye d'être proche des gens. Il n'y arrive pas. Vous vous souvenez quand il avait été parmi les animateurs des Victoires de la Musique, il avait essayé d'être cool. C'était un ratage complet. Et bien là, on est dans le même. Il force sa nature. Et je trouve qu'il y a des acteurs qui jouent mal. Et lui, je trouve qu'il présente mal. Et vraiment, même ses sorties de sujet, il essaye de faire du Pernaut. Mais pour moi, c'est un petit peu ce que Obispo et Apolnarev, c'est un ersatz, quoi. Un pâle ersatz.
Voilà. Bon. Moi, je trouve dur, François. Parce que il est quand même plaisant à regarder.
Et c'est un bon professionnel. Ça être... C'est ça qui est dommage.
Je trouve qu'il progresse.
Alors moi je l'ai pas vu donc je peux pas juger, mais de vouloir le calquer effectivement.
Oui, il veut faire du Pernaut.
Ils essayent de faire.
C'est dommage.
Ce qui a marché.
Et lui laisser sa personnalité.
Sur Europe 1, pardon, je parle d'une antenne concurrente, mais il est beaucoup plus naturel et il fait du Julien Bugier. Ouais. Moi, je pense que ça serait intéressant
le temps de faire... Je pense que l'écart va se réduire.
Non, mais certainement, je pense que c'est un bon professionnel, mais que là, il force un peu sa nature et qu'il est un peu à contre-emploi.
Alors, Éric Flou, vous, un coup de cœur, un coup de gueule?
Non, mon coup de cœur, c'est quotidien, c'est Laura Guesswiller, c'est la reporter, l'envoyée spéciale à Washington. Elle était là au moment où le Capitole était envahi, ça s'est passé. Elle était avec les émeutiers et donc elle est rentrée et sur Quotidien, qui est quand même une émission d'infotainment un peu rigolote, on voyait l'histoire se faire. Elle était dans le couloir du Capitole et elle parlait avec les émeutiers. Enfin, c'était vraiment incroyable de voir ça, de vivre ça en direct. Et je crois que Yann Barthès avait même un petit peu peur pour elle. C'est un vrai coup de cœur d'être là au cœur de l'événement.
C'est que le langage n'était plus journalistique entre eux.
Ils
discutaient comme deux copains. Ils faisaient attention, mais tu vois où
tu es.
Il n'y avait plus de télé, en fait. Et c'était ça qui était intéressant dans ce moment-là.
Bravo à Quotidien, parce que pourtant, c'est une émission qu'on peut critiquer.
Bravo à Quotidien, mais en fait, nous... au Figaro Live, Vincent Joly, qui est grand reporter au Figaro Magazine, était là-bas. Lui, il s'est fait molester, il s'est fait jeter son portable à la sortie. Et lui aussi, il a vécu ça. Moi, je vous conseille de lire son récit là, qu'il fait sur le site. C'est vraiment formidable. Il est à l'intérieur. Et effectivement, c'est l'histoire qui se fait. Et là, il l'avait vraiment vécu. On a eu peur pour lui.
Ça, c'est quand même étonnant comme infomédia. Ça veut dire que de plus en plus, les journaux de presse vont avoir de la vidéo, vont avoir du direct.
De toute façon, nous, on a Figaro Live qui fait des émissions, qui n'est pas une chaîne de télé, mais qui est un appui vidéo, bien sûr, à tous nos programmes. Et effectivement,
sur les
grands événements. Oui, mais regardez, moi, quand Johnny est mort, à 5h du matin, j'ai pris l'antenne et j'ai fait un live pendant 3h jusqu'à ce que le renfort arrive. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça fait partie de notre métier. Alors, je ne vous dis pas qu'on est des professionnels de la télévision, mais en tout cas, bien sûr que c'est normal. On fait partie de... C'est vraiment un complément aujourd'hui nécessaire à un média écrit, quoi.
Catherine nous dit ravie que la série ait plu. Moi, j'ai adoré sur Salto et je la re-regarde à propos de La Promesse. Et Zapper TV nous dit entièrement d'accord avec le journaliste du Figaro. Donc François Aubel, Bugier est bon pour le 20h, pas pour le 13h. Il s'invente une passion pour l'info de proximité, mais ça sonne faux. Et Lacaro, c'est vraiment sa passion. Plus de 10 ans de JT régionaux. Voilà. Alors vous, donc le Capitole, c'était effectivement cette séquence
incroyable,
absolument folle et incroyable.
Et puis ensuite, tout,
et puis bon, ce qui s'est passé. Il y a eu France Télé aussi sur...
Ouais, France Télé, et puis après, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait vécu une... Alors, c'était pas une révolution, mais une révolte, mais on a vécu, en tout cas...
Une
insurrection en direct live. Film, hein. Je sais pas si vous, Valérie... parce que vous m'avez alerté dès le début, vous avez été très forte quand même, hein, parce que Valérie Expert, pour nos éditeurs, elle m'a envoyé un mot en disant, on était au téléphone, disant, attends, je te laisse, il y a Trump qui est en train de parler, etc. Et puis ensuite, elle m'a envoyé SMS, elle me dit, mais t'as vu les troupes là qui bougent?
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais vous connaissez la série Years and Years? Moi, je croyais que c'était une série d'anticipation.
C'est ça que je veux dire, c'est qu'on voyait l'histoire.
La réalité dépasse vraiment la fiction.
Alors, effectivement, suite à cela, on l'évoque dans notre question Internet, Mark Zuckerberg a suspendu le compte Twitter de Donald Trump pour 3 tweets qui étaient considérés comme incitant à la violence. Son compte Twitter a été rétabli, mais Facebook et Instagram non.
Juste Zuckerberg, c'est pas le patron de Twitter. Hein.
Pardon ?
Non, parce que vous avez Zuckerberg.
Ah, oui, non, non, d'accord, Twitter effectivement, mais Zuckerberg a maintenu la fermeture. Alors je vois un dessin de presse avec tous les médias, CNN, etc., etc. Maintenant, c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. C'est-à-dire que ça, ce sont les gens qui disent les médias sont plus dangereux finalement que ne l'est Trump. Vous trouvez que c'est normal que Zuckerberg ait fait ça?
Non, moi je trouve ça gênant. En fait, je trouve ça gênant parce que je trouve que ça...
François Aubel.
Ça joue totalement le jeu de Trump. Il adore ça, la victimisation. Et c'est la victimisation ultime, c'est d'être censuré par les GAFA. Et pour moi, je trouve que c'est dangereux. En plus, de toute façon, il est passé ensuite par son porte-parole pour communiquer. Il a continué. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est contre-productif. Honnêtement, je trouve ça contre-productif. Je trouve que ça joue totalement le jeu de la victimisation. C'est presque remettre un peu d'huile sur le feu.
C'est trop peu, trop tard, quoi.
Ouais,
ça aurait dû être fait avant.
Ouais, bien sûr.
Et puis après, et les islamistes, et les... Voilà, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut que ça soit une révolution pour les réseaux sociaux et voilà, empêcher tous les discours de haine. Ouais. C'est qu'à là, faut aller jusqu'au bout. Là, c'est une petite...
Oui, il y a un côté fait du roi.
Fait du roi aussi... plus c'est trop tard maintenant.
Moi, je trouve ça très grave, en fait, qu'un réseau social décide, comme ça, du jour au lendemain, de couper la parole à quelqu'un, quelle que soit cette personne. Soit il y a des règles, et ces règles sont valables pour tous.
Règles,
et donc, dans ce cas-là, dans ces règles, c'est évidemment pas de propagande, pas d'appel à la haine raciale, etc. Dans ce cas-là, mais ils n'ont pas les moyens. Concrètement, ils n'ont pas les moyens de gérer tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, donc ils ne peuvent pas le faire. Et donc là, je comprends qu'il y ait une sorte de victimisation, mais moi, je suis très choqué qu'on puisse couper la parole comme ça du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier, dans la loi et dans les faits, il est président de la République française, j'allais dire, mais il est président des États-Unis, et donc il coupe la voix d'un président. Moi, je suis assez choqué de ça, et que surtout, ils l'ont laissé pendant 4 ans dire tout et n'importe quoi.
Et les conspirationnistes.
Et les conspirationnistes, et tout ce qu'on peut dire. Donc, je trouve que derrière tout ça, il y a un côté très démago. C'est-à-dire que quand le match est fini, c'est très facile de dire « je vais du côté du vainqueur ». Il fallait être avant du côté du vainqueur.
Exactement.
On va parler donc des nouveaux programmes de France Télévisions annoncés sous le signe de la diversité. On l'a évoqué. C'est vrai qu'on nous a annoncé de nouveaux visages sur France Télévisions avec beaucoup de diversité. La question, c'est qu'est-ce que la diversité ? Est-ce que la diversité, ce n'est qu'une question de couleur de peau ?
Ou d'origine,
oui. Est-ce que ce n'est pas aussi le handicap, l'âge, un certain
poids,
nombre de choses ?
Le
poids, absolument. Non, mais voilà.
François... Je suis obèse, je veux une émission à France Télévisions.
Non. Voilà. Non, François.
Je veux une émission, il n'y a pas d'obèse.
Vous avez raison.
Non, il y en a un maintenant au magazine de la santé.
Mais il n'est pas tout à fait obèse, c'est un ancien champion de judo, je crois. Il est plutôt
costaud.
Il
est carré, on va dire.
Carré.
Ah oui, bref. Vous ne me trouvez pas costaud, non. D'accord, j'ai compris le message.
François Aubel, ce message.
Pour moi, c'est c'est de la pure hypocrisie.
D'ailleurs, de la com.
C'est de la pure com, c'est de l'affichage. C'est de l'affichage et j'aimerais tellement que ça soit naturel. J'aimerais tellement qu'on me dise que Maurice Sacco est un brillant chef et pas un chef franco-malien. J'aimerais lui-même, d'ailleurs, quand il présente son émission, il dit son ambition, c'est d'être un chef de 2021. On ne parle pas de cuisine fusion, on ne parle de rien du tout. Lui-même, quand tu lui dis comment vous allez revisiter la blanquette de veau, ah ben je sais pas, je vais peut-être prendre de la pâte de riz comme en Chine. Il y a pas, enfin je veux dire, c'est totalement fou. Ali Ribéi, c'est un bon journaliste. Ouais, je m'en fous de savoir son origine. C'est constamment ça. J'ai l'impression qu'il y a, on est dans un autre monde et il se donne bonne conscience. Alors que ça devrait être naturel.
Mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'en passer par là ?
Non, mais je comprends. Je comprends parfaitement le besoin de représentativité de toutes les composantes de la population française. Ça, je le comprends parfaitement. Mais c'est la façon de faire dans cette conférence de presse. C'est la façon, encore une fois, c'est de l'affichage et ils insistent là-dessus. Ils ne devraient pas insister là-dessus. Ça devrait être naturel. Ouais. Ça devrait passer. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pas fluide. Quoi. Ils sont là, il y a une assignation à résidence. Et moi, assignation à résidence, je n'en peux plus.
Mais c'est l'histoire des quotas aussi. Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là pour faire progresser la société ?
Pour moi, cette façon de faire, c'est des quotas déguisés. C'est vraiment ça.
Eric Flou.
Je pense qu'il se tire une balle dans le pied en communiquant là-dessus. D'ailleurs, Delphine Arnault, je pense que son péché originel, c'est d'avoir parlé des hommes blancs de plus de 50 ans qu'il fallait éliminer de France Télévisions. Or, Stéphane Bern, qui cartonne à plus de 50 ans, il est blanc. Donc c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, c'est très désobligeant pour les personnes qu'on présente comme issues de la diversité, alors que, comme vous le disiez, ils sont professionnels depuis 10-15 ans. Sûr, ils sont des journalistes. On s'en fout complètement. Il faut que ça soit naturel, comme vous dites, et d'ailleurs, c'est le cas.
Et surtout, ils en font un argument de vente. Écoutez, alors, Maurice Sacco, pour nos auditeurs, c'était un des participants de Top Chef. Il est arrivé en finale, il était presque en finale, il était assez brillant. Et alors, écoutez la bande-annonce, puisqu'ils insistent lourdement sur ça.
La gastronomie française est inscrite au patrimoine mondial. Alors, entre tradition, terroir et héritage, France 3 y ajoute le mélange et la diversité. De cette fusion naît la nouvelle émission culinaire incarnée par Maurice Sacco. Ce jeune chef passionné va s'intéresser aux plats traditionnels de la cuisine française en les revisitant selon ses influences et ses découvertes. Il sillonnera la France pour aller à la rencontre de chefs, de produits régionaux, pour innover au plus près des traditions.
On a compris, effectivement, on a bien compris. Donc voilà, écoutez.
Plus que Eric a raison. En plus, je veux dire, si c'est pour nous présenter une grille avec Michel Simès, Fabrice Drouel, qui est transfuge de 59 ans, homme blanc de 59 ans, Michel Simès, ça c'est parmi les nouveautés. Où est-ce qu'elle est, la diversité, pardon. Ouais. Et surtout de faire, presque 10 minutes avec Michel Drucker, qui est une sorte de, en plus avec une déférence un peu mielleuse de Stéphane Sidbon Gomez, le nouveau patron des programmes, vis-à-vis en demandant quand est-ce qu'allait revenir Michel Drucker. Je veux dire, voilà, là, pour moi, il y a vraiment ça relève de l'hypocrisie.
Il va revenir quand, Michel Drucker, on le sait.
Au printemps, normalement. Au printemps.
Et pour finir, puisqu'on parle de diversité, la vraie diversité aussi, c'est ce qui va arriver dans les mystères de l'amour, puisque il va avoir un. Non, ne rigolez pas. Il va avoir un comédien trisomique qui arrive. Ça, c'est de la vraie diversité. Et on peut applaudir AB Productions là pour le coup. Et vous avez
vu. Et c'est pas le service public.
Non, c'est pas le service public.
Il n'y a pas de publicité, et ils le font normalement, ils n'en font pas un argument du ventre, mais il va y avoir un comédien trisomique qui arrive.
Ouais. François Aubel.
Au-delà de cette question de diversité, moi je trouve que la grille que nous a présentée France Télévisions, enfin de toutes les chaînes de France Télévisions, est quand même assez peu audacieuse. Ouais. Et en plus, je trouve qu'il se tire une balle dans le pied, parce que quand il programme C'est ce soir...
Il y a de la nature,
quand il programme C'est ce soir, le nouveau débat de Karim Rissouli à 22h35, normalement, c'est la rediff de C'est dans l'air.
Qui marche très bien.
C'est la rediff de C'est dans l'air qui est presque un tiers des audiences de C'est dans l'air.
Absolument.
Et là, il se tire une balle dans le pied parce que ça retarde la rediff de C'est dans l'air d'une heure, voire une heure et demie. Je trouve qu'il y a des incohérences et franchement, je trouve ça... Moi, il y a peu de choses qui m'attirent, à part justement Fabrice Drouel dans cette grille, Fabrice Drouel qui est en mensuel, qui va remplacer Pièce à conviction.
C'est une émission de France Inter.
Mais qui marche. C'est l'homme le plus podcasté de France, 5,5 millions.
Oui, mais on aurait pu créer une émission autour de lui. On aurait pu, on n'est pas obligé de copier une émission.
Il copie le format, et c'est ça. C'est,
bah,
c'est
on peut inventer, absolument. Voilà.
On peut, je voudrais qu'on parle quand même du bide de District Z. Oui, l'émission d'Arthur, c'est quand même...
C'était top.
Non, ça a été annoncé comme un grand jeu révolutionnaire. Et,
jamais vu en France,
etc.
Dans le monde même.
Et c'est vrai que les audiences se sont effondrées au fil des semaines, et on a un petit peu de mal à comprendre comment TF1 a pu mettre en place. Alors Arthur avait expliqué qu'il avait mis de sa poche, hein. Je crois que ça lui a coûté de l'argent.
Ouais, il avait communiqué beaucoup là-dessous. Il nous a piégé, il nous a montré 20 minutes, hein, Eric, on a parlé avant l'antenne. Ouais. Il nous a montré 20 minutes, et puis ces 20 minutes-là, bon, ressemblaient pas tellement à Fort Boyard, pas encore, on savait pas. Et donc, effectivement, on a communiqué sur, j'allais dire, on s'est fait piéger par ces éléments de langage.
On a été séduit.
On a été séduit par le côté, effectivement, révolutionnaire, innovant, et tatati et tatata. Ouais. Et puis, on s'est retrouvé avec des zombies, de carton-pâte.
Oui, il y avait un côté très cheap, quoi. Et Fort Boyard,
Et Fort Boyard, enfin,
je sais pas. Moi, je vais prendre un peu la défense d'Arthur dans cette histoire.
Alors, allez-y. Ouais.
Oui, deux choses. La première chose, je pense que TF1 l'a financé parce que parfois, il dépense de l'argent pour pouvoir le vendre à l'international. Son coproducteur. Et quand on est français, vendre à l'international sur une feuille de papier, c'est quasiment impossible.
Oui, enfin là, je ne sais pas si vous arrivez avec ça.
C'est parce qu'ils vont l'adapter, les internationaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont voir l'univers, l'exemple, et puis ensuite, ils vont faire leur propre adaptation et le propre format. Et donc, il y a une utilité à mettre sur l'antenne pour gagner beaucoup plus d'argent derrière. Ça, je pense que c'est une première démarche pour répondre à pourquoi TF1 y a été. C'est, je pense, une histoire de gros sous et d'argent. Et la deuxième chose, si on ne peut plus mettre des épreuves, si on ne peut plus faire... Non, mais c'est vrai.
Mais pardon, Gilles.
Déjà, dans ce cas-là, on ne pourra plus jamais faire rien.
Il y a une épreuve, c'est comprendre l'épreuve quand elle est présentée par Denis Brognard. Ça, c'est la première épreuve. Ouais. Hein, l'autre épreuve, c'est à la place du Perforas, on nous met Cédric Villani, son cousin.
Sans l'araignée.
Super comédien.
Très bon comédien. Bon, voilà, c'est du Fort Boyard. Il y a les serpents, il y a tout. Enfin, je veux dire, et puis.
On fait plus d'émissions avec les serpents, on fait plus d'épreuves.
Mais moi, je comprends Alexia Laroche-Joubert qui produit Koh-Lanta et qui produit Fort Boyard quand elle dit que c'est de la copie. Il y a un problème de propriété intellectuelle là-dedans. Ouais. Elle réclame des sous, mais elle a raison. Là, c'est du plagiat.
On nous a promis des zombies façon Walking Dead qui faisaient peur, et puis finalement, le fait que ça passe à 21h, ils étaient obligés de faire des zombies un peu gentil. Donc on est déçus. La promesse était trop forte. Même nous, on s'est fait avoir parce que Arthur, il vend très très bien. Ouais. Il était très convaincant, franchement. En conférence de presse, on s'est fait un peu avoir.
On s'est fait avoir, mais vraiment. Parce que moi, le premier papier qu'on fait sur District Z, il est plutôt encourageant en se disant on attend ce nouveau programme.
Et vous avez été déçus. La semaine prochaine, des conseils, Eric Flou.
Oh là là, là, vous me prenez.
Et François en a.
François en a, oui.
J'en ai rien après.
La série OVNI de Canal+, qui arrive lundi, avec Melville Poupeau, Michel Villermoz de la Comédie française. Le GEPAN, je ne sais pas si vous connaissez le GEPAN, c'était un service qui existait au CNES, qui était dédié à la traque de tous les objets volants non identifiés.
Ouais.
C'est formidable, c'est drôle. C'est fait par Anthony Cordier, c'est un réalisateur de cinéma qui ne voulait pas faire de série, qui ne comprenait pas pourquoi tous les réalisateurs de cinéma allaient à la série. Et puis, sa première série, c'est vraiment génial.
Mais vous savez quoi, Melville Poupeau, il sera ici jeudi.
Ouais, c'est ce que vous
m'avez dit. Pour parler d'OVNI.
Et moi,
c'est la nouvelle émission de Karine Le Marchand, Opération Renaissance, sur l'obésité morbide.
Ouais.
Et vraiment, je trouve qu'elle apporte du tact et son style d'interview est très dans l'empathie. Enfin, je veux dire, c'est anti-spectaculaire, entre guillemets. On n'est pas dans la télé-réalité à l'américaine.
On l'a eu hier, on l'a reçu hier, Karine Le Marchand, et on lui a posé si c'est du documentaire ou de la télé-réalité. Elle a dit non, c'est une forme de télé-réalité.
Oui, c'est un docu-réalité.
Et
il n'y a pas de grossophobie parce qu'on l'accuse de grossophobie.
Absolument.
Pas du tout, au contraire.
Elle est très dans l'empathie. On avait un témoin hier qui disait qu'heureusement qu'elle avait été là, d'ailleurs. Ça a duré 3 ans le tournage et heureusement qu'elle l'a accompagnée, qu'elle a été là pour le soutenir hors antenne. Mm-hmm. Et je crois que c'est effectivement une émission qui peut. Vous l'avez vu, François?
Non, je l'ai pas vu.
On apprend plein de choses.
On apprend plein de choses et c'est.
Tu ferais la saison 2.
Voilà, Gilles, très bien. Donc à voir effectivement OVNI et.
Mais on pourra prendre des paris parce que moi je pense que l'audience va pas être bonne pour tout.
Ça commence
lundi.
C'est lundi.
Lundi aussi.
Ouais, lundi aussi. aussi. Ouais. Bon. Merci à tous les trois. Merci à vous. La question internet.
Oui, il y a eu beaucoup de votes. Il y a eu beaucoup de votes. Je me remets vite sur. Sur voilà, ça y est, je me suis remis. Oui, non à 93% pour nos auditeurs.
Donc,
sur la question,
que,
c'était oui, est-ce c'était que Mark Zuckerberg a-t-il raison de bloquer les comptes Facebook, Instagram de Trump? Oui, 7%. Alors, beaucoup de réactions, vous pouvez continuer encore
et
à discuter.
Et Xavier nous dit, moi je suis bloqué depuis un mois pour avoir écrit que les Français sont débiles face au Covid. Et il dit, ce qui est une chose, c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec un modérateur sur sa décision. On a l'impression d'un tribunal d'exception. Et il a assez raison, Xavier, parce qu'il y a des gens qui ont été bloqués pour rien et d'autres qui balancent des horreurs et qui sont toujours là, donc un peu de mal à comprendre parfois ces réseaux sociaux. Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est Gérard Collard qui sera là pour parler livres.